Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard, le 2 juillet 1991.
Certains ont posé la question, pourquoi le choix que j'ai pris égale Heidegger par rapport aux problèmes que nous nous posons? D'abord parce que se sont posés le même problème. Les idéologies athées ne se posent pas le même problème. Et qu'ils sont représentants dans la philosophie qui n'est pas loin de nous. Tous les deux, d'une attitude assez nette. C'est pour ça que je vous disais, on dit tous les jésuites sont hegeliens et tous les dominicains heideggeriens. Ça prouve quand même qu'ils ont choisi un bon cheval de course. Ils ont misé là-dessus. Les jésuites misent sur Hegel, les dominicains sur Heidegger. Voilà. Je crois qu'ils ont un goût assez subtil, les uns et les autres, pour voir que, en effet, aujourd'hui, ce sont des philosophes qui ont une grosse influence. Qui ont une grosse influence et qui l'ont encore. Surtout en France. En Allemagne, Kant fait encore prouesse. En France, beaucoup moins. Beaucoup moins. Je ne compte pas beaucoup. Il y a Clavel qui est un des derniers conscients. Je crois que Clavel était un des derniers conscients. Je ne dis pas quand est mort avec lui, mais presque. Parce que c'est Clavel qui dit, j'ai eu tellement de peine d'entrer dans Kant que je n'en suis jamais sorti. Je trouve ça très joli comme aveu. Et que même après le coup de grâce qu'il a reçu, qu'il a converti, il est resté conscient. Très curieux. Mais ça nous intéresse moins. Évidemment, ce serait une position qui serait intéressante aussi. Mais c'est plus ancien, Kant. Kant a été tellement démoli par une grosse artillerie allemande de philosophes. Grosse artillerie. Il faut lire la manière dont Hegel parle de Kant et la manière dont Nietzsche parle de Kant. Fossoyeur de l'intelligence. On reçoit ça sur le dos. Hein. Et c'est vrai, Hegel et Nietzsche ne peuvent pas encaisser. Je sais bien que c'est toujours un peu les théologies, les philosophes qui s'attrapent mutuellement. C'est une histoire de guerre que l'histoire de la philosophie. Et de guerre assez forte. Parce qu'un philosophe qui est un vrai philosophe s'en cache complètement. Alors, il est quelquefois un peu hargneux. Alors j'ai choisi Hegel, parce que Hegel c'est quand même quelqu'un d'important. On l'a dit, et on le dit encore, que le rôle de Hegel sur la philosophie contemporaine est analogue au rôle d'Aristote au Moyen-Âge. Je crois que c'est vrai. Surtout chez les curés, chez les théologiens. Chez les théologiens, Hegel joue un rôle extrêmement important. Il y a quelques années, c'était peut-être quand j'ai quitté Fribourg l'année avant, donc en 81, un professeur de théologie avait lancé pour toute l'année une réflexion sur Hegel pour les théologiens. Et on avait vu venir des Hegeliens plus ou moins théologien. Et entre autres, on avait fait venir le père Dubarl, qui aimait beaucoup Hegel. Et le père Dubarl a dit à ses théologiens, Hegel est génial. Le père Dubarl était professeur de philosophie à la faculté catholique de Paris. elle est géniale, mais on ne peut pas le discuter. C'est une attitude qui arrive assez facilement, ça, tellement il est génial. Donc on ne cherche plus la vérité à ce moment-là. On cherche le génie. C'est pas la même chose. Puis il avait ajouté à ces jeunes théologiens, mais surtout, ne faites pas une théologie en vous servant de Hegel, vous perdrez la foi. Ce que je crois être vrai, si on entre à fond dans Hegel et qu'on fait une théologie avec Hegel, si on n'est pas très très formé à une vraie philosophie, à une vraie théologie, eh bien on risque de capoter, dégringoler et de se mettre à suivre Hegel. Alors on se réveille luthérien. Ça joue sûrement énormément aujourd'hui dans toute la crise de la théologie. L'influence de Hegel est prépondérante, c'est pour ça que je l'ai pris Hegel. Puis qu'en même temps, c'est un homme qui aime énormément Aristote et qui le dit, que le seul philosophe qui forme, c'est Aristote, c'est pas Platon. Donc c'est intéressant, parce qu'on voit quelqu'un qui a creusé quand même. Il dit ça dans l'histoire de la philosophie. Et Heidegger, il est plus proche de nous. Heidegger aussi a une grosse influence. Moindre, au point de vue pensée, au point de vue pénétration de la pensée. Mais je connais des théologiens qui sont très heideggeriens. On reconnaît tout de suite la marque. C'est pour ça que je les ai pris, parce que c'est... Donnez-moi d'autres noms qui soient plus forts que ces deux, je ne vois pas. Par rapport à ce problème. Par rapport à ce problème, religion et philosophie. Tous les deux, c'est ce problème-là, la connaissance de Dieu. Quelle connaissance de la philosophie peut-elle nous donner de Dieu? Ceci, c'est pour simplement pour répondre à quelques questions posées. Parce que vous devez poser toutes les questions. Je n'aime pas qu'après la session, si on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et on vous dit de les poser, vos questions, exprès. Parce que comme je vous donne un cours très librement, je peux donner des expressions très rapides qui scandalisent ou qui posent des questions. Je vous dis, soyez honnête. Je suis honnête avec vous, soyez honnête avec moi. Ça fait partie du dialogue, ça. Parce que tiré du contexte où on veut tout dire. On veut tout dire. Je pourrais vous dire des phrases de temps en temps que je retrouve dans telle personne qui n'aime même pas beaucoup et qui alors veut fusiller quelqu'un. C'est facile. C'est très facile. Tiré du contexte, on dit tout ce qu'on veut. C'est grave. Parce que on n'a pas le droit de faire ça. Alors, vous avez pris la tradition, les traditions religieuses, comme un des points de départ de la recherche philosophique, de l'être premier. Mais pourquoi pas l'expérience religieuse? C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais l'expérience religieuse n'atteint pas directement Dieu. Nous le verrons. L'expérience religieuse relève de l'attitude religieuse de l'homme, présuppose Dieu connu. Elle n'est pas une découverte de Dieu. L'expérience religieuse, c'est l'adoration. C'est le tremendum, comme disent les philosophes, à l'égard de la présence de Dieu. Vous voyez, c'est Adam, après son péché, qui entend les pas de Dieu. Il a fait une expérience religieuse. Et il a eu peur. Nos ancêtres avaient peur que le ciel tombe sur leur tête. Expérience religieuse. L'expérience religieuse implique ce tremblement face à la présence de Dieu. Le tremblement que peuvent connaître certaines personnes en présence d'un aigle qui bondit sur le... Je connais quelqu'un comme ça qui était fou des aigles. Alors qu'elle est dans tous les lieux en France où il y avait des aigles qu'on pouvait s'approcher. C'est elle qui m'a raconté ça. Elle avait, je crois, 30 ans à ce moment-là. On lui avait dit, aux Pyrénées, on peut s'approcher assez facilement de nids d'aigles. On en connaît, comme ça. Alors approchez-vous si vous voulez. Alors elle avait vu un nid d'aigle pas très... Vous pouvez s'approcher assez. Alors elle s'était approchée. Et elle avait vu qu'il y avait des petits. Alors quand l'aigle est arrivé, elle a eu tellement peur qu'elle n'a même pas regardé. C'est aplati par terre. Tellement c'était impressionnant. Oui, je prends ça comme exemple du tremendum. Cette peur, là, de la transcendance, exprimée par l'aigle. L'aigle royal. Quand on est loin, on voit ça, c'est admirable. Et quand on est tout proche, surtout une personne qui n'était pas volumineuse, n'est-ce pas, qui était assez frêle. Le petit mouton, oui. Oui, parce que si cette personne pèse 100 kilos, il n'y a pas de danger. L'aigle viendra peut-être gratter. Mais, il n'y a pas de danger. Tandis qu'une personne qui pèse 50 kilos, il pourrait l'emporter puis la lâcher après. C'est pas très drôle. Le tremendum, venez, religieux, ce n'est pas l'expérience de Dieu. Comme la peur de l'aigle, c'est pas l'expérience de l'aigle. C'est la présence de l'aigle. C'est pas la même chose. La présence de Dieu dans certains lieux, ce lieu est sacré. Ce lieu est saint. Il ôte ses chaussures. Moïse, c'est une expérience merveilleuse. Tu es religieux. Il enlève ses chaussures. Il y a comme ça dans l'écriture quelques grandes expériences religieuses qui sont très très fortes et très belles. Qui ne sont pas l'expérience de Dieu, la présence. Alors, je ne peux pas chercher à découvrir Dieu par l'expérience religieuse. Ça présuppose la connaissance de Dieu. Et c'est en fonction de la présence de Dieu. C'est très important, c'est très intéressant, mais au point de vue profond, ça me fait uniquement découvrir une des dimensions de l'homme. L'homme est sensible à la présence de Dieu. Il y a une corde en lui, dans son cœur. Une corde musicale à la présence de Dieu. Comme une corde musicale à la présence de l'ami. Il y a une corde musicale à d'autres présences. Et les êtres très sensibles savent très bien reconnaître telle corde musicale du cœur. C'est le cœur, c'est la volonté. Donc je ne peux pas prendre l'expérience. Les traditions religieuses ont ceci de propre, c'est qu'elles ont quelque chose d'objectif. Je peux les montrer. Tout le monde peut les voir. Elles font partie du patrimoine de l'humanité. Donc elles ont une objectivité que l'expérience religieuse n'a pas. Et ces traditions religieuses montrent le lien de l'homme et de Dieu. La peur occasionnée par la présence de Dieu. Dieu qui punit. Qu'est-ce que c'est que Dieu qui punit? C'est pas une expérience de Dieu directe, mais c'est subir une présence de colère divine. Qu'est-ce que l'expérience mystique, le philosophe peut-il en parler? Bergson. personne à parler d'expérience mystique. Les anciens, Platon a parlé d'expérience mystique. Platon dit dans le dialogue de Lyon, un petit dialogue très intéressant, que tout le monde peut lire. Platon est lisible à tout le monde. C'est facile à comprendre. On le comprend plus ou moins profondément, mais Aristote est dur à lire. Tandis que Platon, le dialogue de Lyon, c'est un petit dialogue de l'inspiration. Alors Platon dit, je ne cite pas textuellement, mais à peu près ça, que le poète, l'homme mystique, le philosophe, ont des attitudes parallèles. Ils se comprennent. Un mystique comprend un poète. Un poète comprend un mystique. Un homme de pure logique ne comprend rien à ça. De pure raison ne comprend rien à ça. Alors, il y a quelque chose de semblable chez le poète, chez le mystique, chez le philosophe. Pour Platon, le philosophe. Celui qui ne croit rien à la poésie n'est pas un philosophe. Je connaissais un philosophe qui disait, pour moi, un air de musique, c'est un bifteck. Alors, vous comprenez, ce philosophe, il y avait des chances qu'il ne comprenait pas grand-chose à ce que représentait la philosophie. Il comprenait la logique mathématique. Rien de plus. La poésie, un bifteck. Alors, l'expérience mystique, qu'est-ce que c'est? L'expérience mystique présuppose la grâce. C'est pour ça que je ne prends pas l'expérience mystique. Je pourrais, pour illustrer, au terme, pour illustrer, c'est très bien. L'expérience mystique, pour un chrétien, présuppose la grâce. Et c'est une expérience à l'intérieur de l'amour grâce au don du Saint-Esprit. Comme il y a sept dons, il y a sept modalités d'expérience mystique. Il y a l'expérience mystique de la piété, l'expérience mystique du don d'intelligence, l'expérience mystique du don de sagesse, qui correspondent toutes à une des béatitudes. L'expérience mystique de la béatitude des pacifiques. L'expérience mystique de la béatitude des cœurs purs. Le don d'intelligence. L'expérience mystique de la miséricorde. Toutes nous donnent une expérience de l'amour de Dieu pour nous. De l'amour du cœur du Christ pour nous. Donc, c'est une expérience de la présence aimante de Dieu pour nous. C'est ça l'expérience mystique. Mais on touche vraiment le mystère de la personne de Dieu. Présente pour nous. Et présente auprès de nous. Et présente avec nous. Et pour nous. Alors, il y a quelque chose de très grand dans toute expérience mystique. Parce que c'est une expérience d'amour. Où on découvre combien Dieu est proche de nous, plus intime à nous-mêmes que nous ne sommes intimes à notre mystère de grâce qui est au-dedans de nous-mêmes. Et c'est vrai, il n'y a pas de distance entre Dieu et nous. Et on découvre ça. Alors les mystiques ont pris ces comparaisons pour montrer combien Dieu est prégnant, comme l'éponge dans l'océan est remplie d'eau. L'expérience mystique fait que notre âme, subitement, est en présence du Dieu, amour, du Père, de Jésus, de Marie, de l'Esprit-Saint. C'est une présence amoureuse dont j'expérimente le bienfait au plus intime de moi-même. Le bienfait dans mon cœur, le bienfait dans mon intelligence. on doit demander à l'Esprit Saint de nous aider à vivre de cette expérience. Ça change toute notre vie. À partir de là, Jésus est une réalité présente. C'est plus simplement quelqu'un de lointain. C'est ça qui est merveilleux dans l'expérience mystique. C'est que Dieu est tout proche. Dieu est présent. Il nous porte. Il nous aide. Il est l'ami. Il est l'époux de l'âme. On doit demander ça. On ne doit pas demander à Dieu des charismes. On doit lui demander l'expérience mystique pour nous aider à vivre en enfant de Dieu, pour nous aider à vivre en fils bien-aimé du Père. L'expérience charismatique, c'est pour le bien de la communauté, l'utilité de la communauté. On a besoin que l'atmosphère soit un peu réchauffée. L'atmosphère est réchauffée. Ça, quand on est très fragile, on a besoin de ça, c'est sûr, je comprends très bien. Un petit enfant a besoin d'une couveuse électrique pour vivre. C'est chaud. Autrement, il mourrait de froid. Un adulte en a moins besoin. Alors, au plan surnaturel, on est toujours comme des tout-petits. Alors on a besoin d'un certain climat qui nous aide. Mais il ne faut pas non plus, voyez, confondre petitesse évangélique et petitesse psychologique. Ça doit se distinguer. Il ne faut pas s'habituer à une sorte de petitesse psychologique qui fait qu'on a besoin d'une couveuse électrique. La couveuse électrique, vous voyez, au point de vue mystique, ça prend des formes très différentes, n'est-ce pas ? C'est la présence de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Alors on a besoin de ça. Et c'est vrai, quand on est très fragile, à raison de la maladie, à raison d'une quantité de choses qui nous a fragilisés, on a besoin de vivre en présence de quelqu'un en qui on a toute confiance. Parce que dès qu'on est en présence de quelqu'un qui soupçonne, et quand on est fragile, on est particulièrement sensible à ça. Ou cette personne, elle ne m'aime pas, elle me soupçonne. Et quand on le demande à l'autre personne, elle ne dit pas du tout. Mais il y a tout simplement un manque de manifestation aimante, d'amour. Alors on croit que c'est pas commode. Hein. Mais le point de vue charismatique est là pour réchauffer l'atmosphère. Tandis que l'expérience mystique est toute intérieure et personnelle. Elle peut avoir un rayonnement charismatique. Oui, le cerveau sapiensié est un rayonnement charismatique. C'est le premier des charismes. C'est le charisme le plus important, ça vous a bien dit. C'est le charisme de l'apôtre. Tout apôtre a ce charisme s'il a une expérience authentique avec Jésus. Pour pouvoir être témoin à la suite de Jean de la blessure du cœur. On voit bien ça. Un cerveau sapientier, c'est exprimé dans le langage, par les gestes, par la présence, l'intensité d'amour du Christ pour nous. Le mystère de la croix. Et de présenter le mystère de la croix dans toute sa force. Ça, c'est le cerveau sapientier. Il y a d'autres charismes, tous les charismes habituels, c'est pas qu'on connaît. Alors, les charismes habituels, le charisme par exemple de prophétie, ou le charisme de guérison, on ne doit pas le demander. La grande sainte Thérèse disait qu'il ne fallait pas le demander. Mais on demande l'expérience mystique. Ah oui, ça oui. On supplie Dieu de se manifester au plus intime de notre cœur pour que nous ayons sa présence et que nous puissions respirer l'expérience mystique, vous voyez, c'est quelque chose de complexe et en même temps de très simple. C'est sous l'action de l'Esprit Saint et d'un don de sagesse, l'expérience interne de l'action du Christ sur nous, l'expérience interne de l'action de l'Esprit Saint sur nous, de l'action de l'Esprit Saint sur nous, c'est-à-dire de l'Esprit Saint qui, par les dons qu'il nous donne, nous éclaire sur le Père, nous éclaire sur Jésus, nous éclaire sur son rôle d'amour. C'est toucher intérieurement la présence du Christ, de Marie, du Père, de l'Esprit Saint. On ne peut jamais en être absolument sûr, parce que c'est dans la foi. Celui qui en est trop sûr tombe dans l'illuminisme. L'illuminisme, c'est oublier que toute expérience mystique est dans la foi. Et donc, toute expérience mystique étant dans la foi implique une certaine obscurité. On ne peut jamais dire que Dieu m'a saisi d'une façon telle que... Je peux dire, personnellement, j'en suis persuadé, on ne sait jamais. Le démon peut faire des grimaces séduisantes. Et je crois que c'est Marie, que je crois que c'est le Christ, alors que c'est le démon. C'est pour ça qu'il faut tout le temps faire ce discernement par celui qui est notre Père spirituel. Celui qui, pour nous, est le représentant du Christ. On ne peut pas faire soi-même. On tomberait dans l'illuminisme. Et ça va vite dans l'illuminisme. Parce que ça vient de nous. Nos enfants sont toujours les plus beaux enfants du monde. Et tout ce que nous ressentons autour de nous, c'est toujours la chose la plus extraordinaire qui a existé dans le monde. Toujours, parce que pour nous, c'est le feu d'artifice interne. Et c'est magnifique. C'est étonnant. Alors qu'on sait toujours que c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, c'est là... Surtout si on a un peu d'imagination. Et on en a tous un peu. Terrain chaud et humide. Alors, on a tous un peu. Même en Bretagne, le granit. On a des flashs qu'on pense être divin. Je me souviens, c'était un Breton qui était agent de la paix. C'est une première expérience de ma vie apostolique. J'étais ce soir, le supérieur était absent, j'étais responsable du couvent. Et alors arrive quelqu'un en civil qui se dit gardien de la paix à Paris. Un flic. Gardien de la paix à Paris. C'est bien. Il demande d'avoir un père. Alors on me l'envoie. C'est quand je vais le voir. Je dis, je viens ici, j'ai appris qu'il y avait des moines. Il y a des questions que vous voyez, on ne peut poser qu'à des moines. Je dis, tiens, oui, oui. Quelle différence voyez-vous dans les rapports de la cesse et de la mystique, dans le christianisme et dans l'Inde? Gardien de la paix à Paris. Pas mal comme question, hein? Exactement ça. J'ai essayé de lui expliquer comment la cesse est ordonnée à la mystique et que dans l'Inde, quelquefois, ça se voyait moins bien. La distinction était moins nette. Parce que la mystique, pour nous, c'est une personne. Donc c'est plus net, un rapport personnel. Dans l'Inde, c'est plus un sentiment, c'est plus un nirvana. C'est beaucoup plus difficile à préciser. Elle a écouté. Elle dit, c'est bien ce que je croyais. Parce que j'ai lu l'évangile de Jean. Alors après, il m'a expliqué qu'il ne pratiquait pas, mais qu'il priait tous les jours. Qu'il priait tous les jours et qu'il avait toute une série d'amis qui étaient tous des amis du Christ. Qu'il ne pratiquait tu t'appelleras Jean. Merveilleux. J'étais chez lui, présenté tous les gosses. Ah, voilà mon père. Tous les gosses regardaient. Parce qu'ils connaissaient le père, selon la chair et le sang. Et alors celui-là, qui tombait comme ça du ciel, en habit, qui ne savait pas très bien. Vous voyez, cet homme avait sûrement une expérience mystique du Christ. Vous se posez cette question. Il avait lu des quantités de choses là-dessus. Parce qu'il voulait savoir. Et alors il m'a posé après, et la religion et l'expérience mystique. Est-ce que l'expérience mystique remplace la religion? Parce que vous et moi, d'abord j'ai très peu de temps. Elle a la messe dimanche, je ne sais pas comment je suis. Mais quand je suis agent de peur, quand je suis à mon poste, je prie tout le temps. Je prie tout le temps. Je demande à Jésus de m'éclairer.
Ce n'est pas la religion.
Ah oui, c'est là où pour égal, de temps en temps, il y a une confusion un peu de tout. Aussi bien des sciences mystiques que la religion. Il y avait tout dedans. Parce que ce qu'il disait ce matin, c'est très... Ce que je vous lisais ce matin, c'est très l'expérience mystique. L'expérience de la toute-puissance de Dieu. Cette joie extraordinaire. Pourquoi cette réflexion de l'homme sur le transcendant, est-ce l'expérience externe qui conduit à cette question, ou bien est-elle naturellement présente dans l'intelligence? Oui, ça c'est une question extrêmement intéressante sur laquelle nous reviendrons. J'ai envie de répondre d'abord aux autres questions, parce que ça c'est dans la ligne de ce que nous allons voir. Pourriez-vous préciser ce qu'est cette distinction entre intelligence et raison? Oui, c'est une très vieille distinction. Elle est déjà dans Aristote. Et saint Thomas l'a reprise. Aristote, c'est pas saint Thomas qui l'a faite, c'est Aristote. Aristote distingue entre, en grec, le nous. Le nous, qui est traduit par intellectus en latin et intelligence chez saint Thomas, et le logismos la partie raisonnante. Raison. Chez saint Thomas, ratio. Pardon. En latin, ratio. La partie raisonnante. Je raisonne, vous allez tout de suite comprendre, il y a deux activités intellectuelles. L'activité du jugement. Et l'activité du raisonnement. Le jugement implique un discernement. Pour les Grecs, c'est le discernement. Le jugement, l'intelligence discerne. Krinein, elle discerne. L'intelligence juge, elle adhère. L'intelligence raisonne. Comprendre ça, parce qu'on a tous raisonné dans sa vie. Et on a tous jugé. Quand vous devez voter aux élections, hein, vous faites un discernement parmi les candidats. Vous avez des feuilles de papier. Hein, et vous adhérez à telle ou telle feuille. Et vous avez raisonné là-dessus avec des amis. Normalement. En définitive, vous discernez, vous êtes seul. Hein? On fait ça sérieusement. On est seul, comme pour la prière. Pas tout à fait pour la même activité, mais comme pour la prière. Petit seul, seul. Personne n'est là, sauf Dieu qui regarde. Qui? Sur quel candidat vas-tu voter? C'est important, c'est un acte civique. Et la répétition de cet acte fait que un tel va sortir. Donc c'est un acte important, c'est un acte de citoyen. On vote pas n'importe comment, on n'a pas le droit. Comment vous n'êtes pas un citoyen? C'est un fou. Il vote n'importe comment. On lui donne un verre de bière, vote pour lui. Un pot, alors pff, on va voter pour lui. Parce que lui on a donné 10 et l'autre 5, donc je vote pour le 10. N'est-ce pas? On voit très bien. Donc discernement, et raisonnement. Et on distingue la même faculté, l'intelligence, le nous. Et il raisonne, logismos, raisonner. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La raison. Il y a des gens qui raisonnent très bien, à perte de vue, et qui jugent abominablement. Qui discernent pas, ils ne savent pas discerner, ils ne savent pas juger. Mais ils raisonnent. Les fous raisonnent. Ils continuent de raisonner. Vous savez, ces vieux moulins à café, on tourne le café comme ça indéfiniment. Puis les fous continuent de tourner, il n'y a plus de café, mais ça fait rien, on tourne quand même. On est habitué, on tourne et on continue de raisonner. Ça, c'est les raisonnements des fous. Ils raisonnent indéfiniment. Il y a des gens qui raisonnent indéfiniment. Et on demande pourquoi. Plaisir de raisonner. Et ils ne savent pas discerner. Il y a des gens qui discernent très bien. Alors ça n'a pas d'importance, ils discernent très bien. Pas besoin de raisonner. Ils sont intuitifs, ils raisonnent vite. Parce que l'intuition télescope le raisonnement, vous voyez. C'est ça l'intuition, ça télescope le raisonnement. Ça nous met tout de suite en contact avec un jugement. Un jugement intuitif. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Descartes? L'entendement. Et il n'y a plus de distinction entre raison et intelligence. C'est l'entendement. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec Hegel? C'est la raison. La raison dialectique. C'est la raison. Tout se ramène à la raison. C'est très curieux, vous voyez. Et c'est intéressant, du reste, de voir comment le mot intelligence, jugement, tend à disparaître. Plus la logique s'empare de la philosophie, plus le raisonnement domine et le jugement disparaît. Un phénomène très net, ça. Et on distinguera avec saint Thomas, troisième opération, l'appréhension. Pour vous donner les trois. Le jugement, c'est l'opération parfaite. L'appréhension, c'est l'opération élémentaire. Et le raisonnement, c'est une opération relative. On est toujours dans la relativité avec le raisonnement. Vous avez donc trois opérations de la vie d'intelligence en vous. La saisie, qui est toujours à l'intérieur d'un raisonnement, qui est toujours à l'intérieur d'un jugement. Et on confond souvent appréhension et intuition. Alors que l'intuition, c'est un type de raisonnement qui porte sur une relation. Toujours. Donc vous voyez ce qu'on représente, le point de vue intelligence et raison. Il faut maintenir la distinction. J'en suis persuadé. Il faut maintenir la distinction. Supprimer la distinction entre intelligence, entre intellectus, intelligence et raison, c'est la raison qui l'emportera. Et donc l'aspect qualitatif disparaît. La qualité d'une intelligence, c'est le discernement. Le raisonnement, c'est très très bien, c'est l'aspect quantitatif. On en met. C'est très bien. Vous voyez, la rhétorique, c'est succès du raisonnement. Et puis de temps en temps, quand même, on discerne et on juge. Quelles sont les grandes confusions que fait Hegel? Ah, je comprends, je ne les ai pas toutes données ce matin. La confusion majeure de Hegel, c'est la confusion de l'ontologisme. C'est un gros mot pour moi, l'ontologisme. Qu'est-ce que c'est que l'ontologisme? C'est une confusion qui vient depuis très longtemps. Le grand-père de l'ontologisme, Platon. On passe de l'idée à la réalité sans crier gare. J'ai des idées et je crois que c'est le réel. Mais c'est le défaut mignon de l'intellectualisme. Des intellectuels fatigués. Les intellectuels fatigués croient que leurs idées, c'est la réalité. C'est très beau, mais c'est ennuyeux, parce que leurs idées n'est pas la réalité. Il y a un abîme entre les deux. Donc on passe de l'idée à la réalité. Sans crier gare. Descartes. C'est l'ontologisme. Et à la suite de Descartes, Hegel. Hegel dira que toute sa philosophie, c'est un argument ontologique parfait pour prouver l'existence de Dieu. Pour non pas prouver, mais rendre présent l'existence de Dieu. Rendre présent l'essence de Dieu. Rendre présent Dieu. C'est très grand, d'une certaine manière, mais c'est assez terrible. C'est parce que, vous voyez, c'est comme si on avait l'idée de Dieu. Dieu nous dépasse complètement. Donc, on ne peut pas mettre Dieu dans une idée. C'est impossible. Dieu dépasse. Il existe d'une manière transcendante. Et très facilement, vous voyez, on fait la confusion. On croit que une conclusion scientifique, c'est la réalité. Mais non, c'est une conclusion scientifique. C'est pas la réalité. La réalité est toujours autre. La conclusion scientifique atteint quelque chose de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Alors on fait des confusions énormes comme ça. Vous voyez, les nombres astronomiques, ça exprime quelque chose de symbolique. Une réalité, mais pas la réalité. C'est quelque chose de la réalité. Toutes les idées, c'est quelque chose de la réalité. Alors on peut s'enfermer dans un grand rêve en pensant que nos idées magnifiques, nos connaissances symboliques, c'est la réalité. Mais non, c'est pas la réalité. Mais c'est toutes les demeures du réalisme. Là, on quitte le réalisme et on tombe dans une sorte d'idéalisme. On identifie l'idée et la réalité. C'est contre ça que Heidegger s'insurge. Et on peut dire que Hegel, l'erreur fondamentale, c'est cela. C'est l'erreur radicale. Il n'en peut rien puisque c'est pas lui qui l'a inventé. Alors on parlera d'un ontologiste de droite et d'un ontologiste de gauche. Hegel, c'est l'ontologiste de droite. Et les idéologies athées, c'est l'ontologiste de gauche. Toutes. C'est pour ça qu'on appelle